France Culture.
Précisément 18h sur France Culture, le journal Julie Pacaud. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. François Bayrou ravive la colère syndicale. Le Premier ministre ferme la porte à un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, mettant en péril l'avenir de ce qu'il surnomme le conclave des partenaires sociaux, conclave qu'il a lui-même installé. Incompréhensible, résume la CFDT. Un conclave vivement critiqué notamment par Édouard Philippe, qui s'en est pris une nouvelle fois à l'actuel locataire de Matignon lors du congrès du Parti Horizon à Lille. Lutter contre l'immigration illégale et le crime organisé avec une loi du 18e siècle. C'est la tentative de Donald Trump aux États-Unis pour mener à bien sa guerre contre les cartels sud-américains. C'est une réponse qui met tout simplement en péril le conclave entre partenaires sociaux chargé de réviser la réforme des retraites de 2023. Interrogé sur France Inter ce midi, le Premier ministre François Bayrou dit tout simplement non à un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
De quoi susciter l'ire des syndicats qui rappellent que c'est bien le Premier ministre lui-même qui a décidé de mettre en place ce conclave en janvier dernier, cherchant à s'éviter la censure du Parti Socialiste.
Oui, le conclave, c'était le rendez-vous des partenaires sociaux sur lesquels il fallait s'appuyer, réfléchir de nouveau sur une réforme de la réforme, une discussion dite sans tabou dans laquelle le gouvernement n'était pas censé intervenir. À vrai dire, dès le début, un doute planait sur le caractère sans tabou de la remise en cause de la réforme avec le contenu de la lettre de mission du Premier ministre. Et voilà ce que répondait François Bayrou aujourd'hui, donc sur France Inter, à la possibilité d'un retour à 62 ans de l'âge de la retraite.
Non.
Vous le dites clairement, 62 ans, c'est pas possible.
La conférence sociale, elle sait très bien, les représentants qui y participent savent très bien quel est le rapport numérique. Et j'ai fait établir par la Cour des comptes un bilan objectif financier.
Et voilà que le Premier ministre semble préempter l'issue des discussions sur la question de l'âge de la retraite. C'est scandaleux, affirme la CGT. Incompréhensible, dit la CFDT. Et c'est faux, ajoute la CFE-CGC par la voix de son président François Omeril.
On peut revenir à 62 et par ailleurs mobiliser d'autres indicateurs, comme par exemple le niveau de cotisation, il y a le taux d'emploi des seniors, il y a le taux d'emploi en général, il y a la productivité des emplois. Il y a en fait tout un tas de paramètres qu'on peut mobiliser et qui ont un impact beaucoup plus efficace et beaucoup plus favorable, beaucoup plus immédiat et beaucoup plus solide sur le moyen terme que le décalage de l'âge légal de départ.
Ce que craignent les syndicats, c'est aussi que la nouvelle donne internationale et les nouveaux choix budgétaires ne condamnent cette discussion entre les partenaires sociaux. Alors certes, François Bayrou a redit sa confiance envers la démocratie sociale, mais il s'agissait surtout pour lui de tacler Édouard Philippe qui lui dénonce ouvertement l'inutilité de ce conclave.
Nicolas Ballu, alors cette interférence du Premier ministre dans les discussions entre partenaires sociaux intervient alors que plusieurs voix à droite s'élèvent pour tenter de couper court à cette discussion face au débat sur l'effort de défense qui s'annonce coûteux. Pour Édouard Philippe, vous le disiez Nicolas, ce conclave est complètement hors sol. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs l'ancien Premier ministre lors d'un discours à Lille devant plus de 1500 personnes lors du congrès de son parti Horizon. Candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, il s'en est pris une nouvelle fois l'idée initiée par l'actuel locataire de Matignon, Rosalie Lafarge.
Le contexte international, l'ancien Premier ministre en est convaincu, sert ses idées.
Ce qui nous attend implique des efforts. Si nous voulons conserver notre mode de vie, notre solidarité, notre modèle social, notre liberté, nous allons devoir travailler plus, nous allons devoir dégager des marges, nous allons devoir faire des efforts.
Et laisser jouer la petite musique qui voudrait faire croire le contraire est irresponsable, tacle Édouard Philippe.
Le conclave sur les retraites, convoqué pour acheter la stabilité politique, n'a à mes yeux plus réellement d'objet. Cette discussion en conclave est hors sol.
Il assume, le maire du Havre, son bras de fer engagé avec François Bayrou depuis avant-hier.
Je vais vous dire, mes amis, je suis inénervable.
Et non, contrairement à ce que dit l'actuel Premier ministre, il ne néglige pas la démocratie sociale et les partenaires sociaux.
Je suis parfaitement à l'aise avec la démocratie sociale quand on lui donne du grain à moudre et pas quand on la cantonne sur un tout petit sujet qui n'est plus d'actualité et qui ne donnera lieu à aucune transformation.
Et il l'assure, Édouard Philippe, après les municipales, il invitera les syndicats à dialoguer sur les retraites avant de poser cette question et d'autres directement aux Français une fois élus.
Ces référendums, Je les ferai donc en début de mandat sur les sujets difficiles.
Se projetant déjà à l'Élysée, Édouard Philippe étrille encore l'actuel locataire de Matignon sur ses priorités législatives, son maigre programme parlementaire, là où lui continue de promettre un changement massif, sans encore, malgré les appels de certains dans ses troupes, en dévoiler tous les détails.
Rosalie Lafarge à Lille pour France Culture. Face à la multiplication des témoignages de violences physiques et sexuelles commises dans les établissements catholiques, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, annonce aujourd'hui un renforcement des contrôles dans les établissements privés sous contrat. Elle souhaite ainsi que 40% d'entre eux soient contrôlés dans les deux ans et que les faits de violence soient systématiquement remontés. Les équipes académiques seront par ailleurs alertées lorsqu'un message ou un appel au numéro 119 Enfance en danger fait état d'abus dans l'ensemble des établissements scolaires. Autant de mesures qui laissent Arnaud Gallet sceptique. Ce militant des droits de l'enfant est un ancien membre de la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
On peut se dire comme ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Sauf que tout de suite, on peut aussi rappeler que le syndicat en fait des inspecteurs disent bien que c'est impossible en fait quasiment à mettre en place. Donc il y a un vrai sujet en fait de fond. On parle de personnes qui sont effectivement recrutées en plus, mais il faut savoir que déjà il y avait des inspections en moins. Donc ça signifie que on sait bien que les établissements privés aujourd'hui sont nettement moins contrôlés. Moi, je m'interroge quand même de me dire aussi que maintenant on va avoir une coopération avec le 119. Enfin, on est en 2025. On sait bien que les établissements privés sous contrat signalent nettement moins, notamment par des questions de notoriété, toutes les situations de danger, etc. En fait, la question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que dans ce pays, on tape du poing sur la table, au lieu de caresser dans le sens du poil, en fait, des établissements qui sont finalement hors la loi. En fait, c'est ça le sujet. Enfin, je veux dire, même là, les choses avec le 119, à un moment donné, faut qu'on arrête un peu. C'est-à-dire qu'il y a une loi, elle est pour toutes et pour tous.
Arnaud Gallet, invité de notre journal 2030, interview en longueur à retrouver sur notre site franceculture.fr. L'établissement Notre-Dame de Bétarame doit être inspecté lundi, 30 ans après sa dernière inspection. Plus d'une centaine de personnes rassemblées cet après-midi devant la Gaîté Lyrique à Paris en soutien aux 450 jeunes migrants, grande partie des mineurs isolés, qui occupent depuis plus de 3 mois le centre culturel parisien. Faute de solution d'hébergement, 3 mois durant lesquels la mairie de Paris et l'État n'ont cessé de se renvoyer la balle, alors que les conditions de vie se dégradent sur place, explique l'un de ces jeunes qui souhaite rester anonyme au micro France Culture de Loumomège.
À l'intérieur, tout manque. C'est pour cela qu'on veut sortir d'ici maintenant, qu'on nous trouve une solution et qu'on parte d'ici. Parce que les conditions de vie ici sont très difficiles. Il y a beaucoup de monde, l'endroit n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de l'eau chaude, il n'y a pas assez de toilettes pour tout le monde, il n'y a pas assez de douche pour se laver. Mais vu que ni l'État ni la mairie, personne ne veut prendre ses responsabilités, on va rester là pour le moment. Certes, ils ont fait une procédure d'expulsion que la mairie avait enclenchée, mais je pense qu'on ne peut pas quitter les lieux sans d'autres perspectives. Si on quitte ici, où est-ce qu'on va y aller? On va retourner dans la rue? Où ça? À Pont-Marie, à Châtelet, sous les ponts, ça ne marche pas.
Propos recueillis par Lou Momège et le 13 février dernier, le juge des référés du tribunal administratif avait ordonné l'évacuation dans un délai d'un mois. Mais la mairie de Paris s'est toujours refusée à faire appel à la force publique. Dans sa bataille contre l'immigration illégale et le crime organisé, Donald Trump tente d'utiliser une loi du XVIIIe siècle qui permet au président américain d'arrêter ou d'expulser des citoyens d'une nation ennemie. Et l'ennemi, en l'occurrence, pour le président américain, eh bien, c'est un gang du Venezuela. Ce dimanche, des centaines de citoyens vénézuéliens ont donc été expulsés dans un cadre judiciaire contestable. Et c'est la première étape d'une guerre déclarée par Donald Trump au cartel venu d'Amérique latine. Les explications de Camille Magnard depuis Atlanta.
Vendredi encore, dans un discours, Donald Trump parlait bien d'une guerre menée, selon lui, aux États-Unis par le crime organisé importé d'Amérique latine et incarné par les cartels, notamment ce gang vénézuélien du Tren del Aragua, déclaré organisation terroriste par la Maison-Blanche, laquelle insistait hier sur les liens présumés de ces criminels avec le régime de Nicolas Maduro à Caracas. Cette façon de présenter les choses justifie, selon l'administration Trump, d'aller exhumer dans le droit américain un texte de 1798, l'Alien Enemies Act, qui permet, de manière sommaire et sans jugement, de faire arrêter, emprisonner et expulser des ressortissants de pays considérés comme des ennemis des États-Unis. Sauf que dès hier, un juge a statué sur l'illégalité illégalité d'utiliser cet acte dans le contexte actuel avec des Vénézuéliens. Et c'est au mépris de cette décision que plusieurs avions ont décollé avec à leur bord près de 300 membres présumés, mais pas jugés, du cartel Tren del Aragua, déporté vers le Salvador, où le président autoritaire et fan de Donald Trump, Nayib Bukele, a accepté de les emprisonner moyennant 6 millions de dollars par an. Pour justifier ce passage en force, la Maison-Blanche estime que la décision du juge a été publiée et donc applicable après que les charters ont décollé vers le Salvador.
Camille Magnard, correspondant à Atlanta. Un mot rapide du temps qui sera plus sec et plus ensoleillé demain matin après la dissipation des brumes et brouillards présents sur la Nouvelle-Aquitaine et les Landes. Les températures minimales sont encore assez froides, allant de moins 4 à 0 degrés sur le nord, 0 à 3 degrés sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Caroline Beneteau.